Alors, on a commencé la deuxième épître aux Corinthiens. On va continuer ce matin et j'aimerais qu'on prenne donc 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 11. 2 Corinthiens 2, versets 4 à 11. C'est dans une grande affliction et le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On va s'arrêter là. On va encore s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci de ces instants que tu nous donnes ensemble autour de ta parole. Père, nous te prions et je te prie que tu veuilles bénir ces instants, que tu bénisses ta parole. Nous l'avons lu ce matin encore dans le psaume 119. Ta parole est belle, elle est parfaite, elle est stable, elle est nourrissante, Seigneur, et que tu veuilles la bénir, Seigneur, lui donner la vie encore devant nos cœurs, nos yeux et faire du bien à nos âmes. Seigneur, merci pour la vérité qui a franchi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a vu la semaine dernière que l'église de Corinthe, ici Paul écrit à l'église de Corinthe, on a vu que cette église avait été affectée par beaucoup de laxisme, de désordre, de péché, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient qui n'étaient pas bien dans cette église. Et donc, Paul leur a écrit une lettre assez sévère. Hein. Et suite à cela, il y a des hommes qui ont commencé à s'élever contre l'apôtre Paul, et à remettre en question son autorité, remettre en question son apostolat et d'évaluer son ministère. Et donc, tout au long de cette deuxième lettre, deuxième épître, Paul va défendre son ministère. Et dans notre passage, celui qu'on vient de lire, Paul commence par parler d'une personne en particulier. Hein, vous avez lu avec moi. Une personne apparemment qui a été la cause d'une grande tristesse. Alors, eh bien, on se pose la question, qui était cette personne ? Alors certains se sont dit, j'ai lu ça, que ça doit être une des personnes qui attaquait l'apôtre Paul et puis finalement elle se serait repentie et du coup, eh bien Paul dit, mais pardonnez-lui. Mais en fait, quand on regarde cette idée, hein, cette pensée, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui convergent vers cette option-là. Donc ça, c'est une première chose. D'autant que l'apôtre Paul avait apparemment plusieurs personnes qui s'attaquaient à lui et pas juste une seule. Et on ne voit pas l'église de Corinthe repousser un des calomniateurs. On voit ça nulle part dans les deux épîtres. Par contre, on peut se souvenir que dans la précédente lettre, donc dans la première épître aux Corinthiens, Paul a jugé sévèrement quelqu'un qui avait commis un inceste, c'est-à-dire il avait couché avec la femme de son père. Apparemment, peut-être sa mère était décédée. Son père, eh bien, s'était remarié et le fils avait eu des relations avec cette personne. Et Paul a été très sévère envers cette personne qui était dans l'église de Corinthe. Et il a dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas tolérer le péché comme ça dans l'église. Alors il a prononcé cette condamnation, il a dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc c'est un jugement. Ça voulait dire, mais excommuniez-le, c'est-à-dire repousser la communion avec lui, plus de communion, plus de contact avec lui, puisqu'il a décidé d'aller dans le péché, il ne veut pas s'en repentir, alors eh bien, que Satan fasse ce qu'il veut avec cet homme-là, et vous, vous ne vous occupez plus de lui. Jusqu'à même prendre sa vie, si Dieu le permet, hein, puisqu'il parle de la destruction de la chair, mais il dit après, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, comme c'est apparemment un enfant de Dieu qui a décidé de pécher et qui est retourné dans son vomi, dans sa boue, alors il dit, ben voilà, qu'il en perde la vie, mais que finalement il soit avec Dieu quand même sauvé. Or, dans notre passage de ce matin, on voit justement un homme qui a engendré une grande tristesse dans l'église de Corinthe, et les Corinthiens apparemment ne lui pardonnaient pas ce qu'il avait fait. Et quand on voit cette description avec cette personne que Paul a condamnée dans la première épître, eh bien on voit que ça colle. Donc il est possible, c'est probable, qu'en fait Paul parle de la même personne. Cette personne qui avait commis un inceste, elle s'est repentie. Elle a commencé à pleurer sur son péché et elle a supplié les Corinthiens, mais réintégrez-moi, je me repens. Et les Corinthiens, ah non, Paul a dit, c'est fini, terminé, et ils ne voulaient pas le réaccepter dans l'Église. Alors Paul va leur dire, versets 6 à 9, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il en soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. » Donc voilà, Paul avait vu tout ce péché qui était dans l'assemblée de Corinthe, alors il leur a écrit sévèrement, et puis ben, c'était un valeur de test. Que vont faire les chrétiens de Corinthe? Est-ce qu'ils vont juger le péché et repousser le mal qui était dans l'assemblée, ou bien ils vont continuer dans leur laxisme et laisser les choses comme ça? Et finalement, ils ont fait ce qu'il fallait, hein, ils ont mis dehors cette personne, espérant qu'elle puisse se repentir. Et on voit que le but de la discipline, c'est pas châtier pour châtier, mais c'est châtier dans le but d'amener à la repentance et un changement d'attitude, de comportement. Et c'est ce qui s'est passé. Le but a été atteint, l'homme s'est repenti et il est revenu apparemment au Seigneur. Alors, eh bien, maintenant, il fallait faire acte de charité, le réintégrer, le pardonner. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur les versets 10 et 11. 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Paul dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et je pose la question, est-ce que nous comprenons les desseins de Satan? Ici, il parle, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de Satan, hein, c'est un autre nom pour le diable. Est-ce que nous connaissons ses desseins? Est-ce que nous comprenons ses desseins? C'est-à-dire, son intention, ses projets, ses plans. Qu'est-ce qu'il est en train de fomenter? Qu'est-ce qu'il prépare dans l'ombre alors qu'on ne voit pas, alors que même certains ne croient pas en son existence? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On ne peut pas croire qu'il y a un Dieu qui est juste, qui est bon, qui est vrai, qui est pur, qui est saint, et concevoir en même temps que le mal vienne de ce même Dieu, que ça ne vienne pas d'une source autre. Si Dieu est réellement ce qu'il est, alors le mal, l'impureté, la souillure, la violence, la débauche, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'une autre source. Et cette source, la Bible dit, eh bien, c'est un être spirituel, le diable, Satan, voilà, que l'on ne voit pas, mais qui pousse dans ce sens, qui aime ces choses et qui va dans cette direction. Dieu ne veut pas qu'on ignore les desseins de Satan, c'est ce qu'il dit ici. Et il y a au moins trois projets, trois desseins dans son cœur. Le premier dessein, c'est corrompre l'humanité d'une manière générale. Essayer de corrompre au maximum l'humanité. Le deuxième dessein, c'est d'essayer de paralyser les chrétiens, paralyser les enfants de Dieu, les rendre inopérants d'une manière individuelle pour qu'ils n'arrivent plus à agir pour Dieu et à plaire à Dieu. Et le troisième dessein, c'est essayer de ruiner l'Église, de détruire son témoignage, de la diviser. Alors, d'abord, brièvement, premier dessein, il veut corrompre l'humanité, et c'est ce qu'il fait depuis des millénaires. Il a de l'expérience en la matière, hein. Il sait comment corrompre. Il essaye de pourrir l'humanité par le mal, par la débauche, par les excès, par la violence, par la folie, puisque de toute façon, il est condamné. C'est écrit d'avance, un jour, il va être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est ce que dit la Bible. à plusieurs endroits. Et donc, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Alors, eh bien, il veut faire du mal. Il veut du mal à chaque homme. Il veut le piéger, il veut le corrompre, il veut le souiller et le mettre dans une position où il devient digne de la condamnation. Oh oui, il veut que les hommes soient condamnés. Puisqu'il est condamné lui-même, il veut en prendre un maximum avec lui dans la condamnation. Ça, c'est son but, c'est son intention, c'est son obsession même. Hein. Il n'existe que pour ça aujourd'hui. Conduire l'humanité vers la condamnation. Aujourd'hui, on assiste dans le monde à une dégradation morale. Petit à petit, hein, on est en train de descendre. On rejette la morale chrétienne, on rejette les valeurs hein, qui sont belles, qui sont dignes. Il y a un bouleversement, on appelle le bien mal et le mal bien. Et puis, comme c'est progressif, tout doucement, l'humanité pense que c'est bien. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les péchés qu'il y avait autrefois, si on prend il y a 2000 ans, hein, à l'époque romaine, c'est les mêmes qu'il y a aujourd'hui. C'est un cycle continuel. On revient toujours dans la même chose. C'est que l'humanité est en train de se corrompre hein, sans cesse. Et le diable travaille pour cette corruption par l'idolâtrie, par l'orgueil, par la convoitise. Et ça marche. Et les hommes, dans leur liberté, entre guillemets, en fait, ils sont esclaves. Ils ne le voient pas. Ils crient à la liberté. Mais la liberté, pour eux, eh bien, c'est l'esclavage, un vrai esclavage. Et donc, Satan est satisfait. Que chacun aille dans sa propre voie, pourvu qu'il soit esclave. Que ce soit la voie de la politique, que ce soit une voie religieuse, une voie athée, une voie de cupidité, une voie de plaisir, une voie de désœuvrement, même une voie de sacrifice, pourquoi pas. Que chacun aille dans sa propre voie, pourvu qu'il n'aille pas dans la voie qui mène à Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut. Mais pour celui qui prend conscience qu'il y a une autre voie que celle-là, ou que celle-là au pluriel, une voie de liberté, alors il faut qu'il sache que Jésus-Christ est la solution. Il est la solution. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait donné sa vie pour les péchés des hommes. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour l'homme. Jésus-Christ est la solution pour contrecarrer les desseins, le plan de Satan. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a écrasé la puissance du mal, la puissance du péché, la puissance de Satan. Il a vaincu, complètement vaincu. La Bible dit qu'il était juste, lui juste, parfaitement juste, Jésus-Christ, et il est mort pour des injustes. Nous sommes les injustes. Lui, parfaitement juste, mort pour nous, parfaitement injuste, en sorte que celui qui croit en Jésus-Christ, il reçoit le pardon de ses péchés, il reçoit la vie éternelle, il devient un enfant de Dieu. Il ne sera pas condamné parce qu'il devient enfant de Dieu. Alors, Satan pourra toujours essayer de tirer, d'essayer de condamner, de charger, de dire mais c'est un pécheur, nous sommes tous pécheurs. Et même en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous péchons encore. Alors, il peut essayer de charger l'homme qui a fait une démarche vers Dieu, qui s'est repenti. Mais Jésus-Christ s'interposera et dira non, je suis son avocat, je suis son défenseur, je suis mort pour ses péchés. Et Jésus-Christ protège celui qui vient se réfugier sous ses ailes. Ça, c'est pour celui qui s'est repenti de ses péchés, qui a cru au Fils de Dieu. À ce moment-là, Satan n'a plus de pouvoir sur lui parce qu'il est protégé par la mort de Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé à la croix. Mais il faut croire. Il faut se repentir et il faut croire. Admettons, on fait cette démarche. On vient à Jésus, on se repent de ses péchés, on comprend qu'il est mort pour nous, qu'il a versé son sang. On lui demande, Seigneur, sauve-moi, fais de moi ton enfant. On devient enfant de Dieu. Là, on pourrait se dire, bon, c'est terminé maintenant. On n'a plus affaire à Satan. Et c'est vrai qu'il y a une vraie délivrance. Hein. Il y a une vraie délivrance de devenir un enfant de Dieu. Mais la deuxième cible de Satan, c'est justement les enfants de Dieu. C'est d'essayer de faire quelque chose vis-à-vis des enfants de Dieu. Il a un deuxième dessein. Il ne pourra plus condamner, il ne pourra plus conduire en enfer un enfant de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le paralyser dans sa vie. Comment il peut le paralyser? Il peut le paralyser de deux manières. d'abord en polluant ses pensées, essayer de polluer ses pensées, parce que on peut pas l'empêcher, hein, il est là, s'il veut nous susurrer des pensées, eh bien il en a la possibilité. Ou sa deuxième manière pour essayer de nous paralyser, c'est essayer de nous maintenir dans un esclavage, un vieil esclavage, l'esclavage de nos péchés. Et les deux sont liés ensemble finalement, ça fait partie de ses desseins. D'abord, il veut bombarder notre esprit de pensées qui sont fausses, des pensées qui sont mensongères, des pensées qui sont trompeuses. Et s'il réussit à mettre des pensées fausses dans notre esprit, il a déjà gagné une bonne partie de la bataille. Pourquoi ? Parce que tout se passe dans les pensées, hein. Nos actions, elles ont pour origine la pensée qui suscite la volonté d'agir et puis qui engendre l'action. Mais si il nous bombarde avec des pensées fausses, des pensées mensongères, trompeuses, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on se retrouve paralysé dans la pensée, paralysé dans la volonté. Alors soit on va faire ce qu'il ne faut pas, soit on va rien faire du tout. On ne va pas agir et faire ce que Dieu veut. Et on voit que la pensée, c'est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, Satan peut nous rappeler notre passé. On a tous un passé. On a vécu des expériences, hein, pas toujours bonnes. Et parfois, on peut avoir vécu des choses qui nous ont blessés. On a des blessures dans l'âme, des choses qui nous ont fait mal, peut-être des situations de l'enfance qui ont laissé des traces en nous. Et il peut agir sur nos pensées et essayer de nous maintenir dans le passé, de nous ramener dans le passé. Et peut-être nous laisser penser que ben, c'est un cycle. Ce qui a été, ben, c'est ce qui sera toujours. Hein. Et nous sommes prisonniers de notre passé. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu es prisonnier de ton passé. À cause de ton passé, tu ne pourras jamais être épanoui. Tu ne pourras jamais changer de vie. Tu ne pourras jamais réussir. Ça, c'est des mensonges, des pensées qui sont fausses, qui sont complètement fausses. Mais à force d'entretenir ces pensées, eh bien, on peut finir par croire, mais c'est vrai. Je suis lié à mon passé et il n'y a pas d'autre solution. Mais la vérité, elle est tout autre. Qu'est-ce que la vérité ? Regardez, la vérité, elle est écrite notamment en 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La vérité, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il devient un enfant de Dieu, il passe par une nouvelle naissance et il est une nouvelle personne. C'est une nouvelle création. Il n'est plus le même. Il a changé de vie. Il a une nouvelle vie. C'est vraiment un nouveau commencement. Et donc, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On entre dans quelque chose qui est différent. Parce qu'avant, nous étions sans Dieu, liés à tout ce que nous vivions et peut-être liés à notre passé. Mais maintenant, nous entrons dans une nouvelle vie. Une vie qui est attachée à Dieu, à Jésus-Christ, et qui est complètement nouvelle. Ça, c'est la vérité. Aussi, Satan peut nous bombarder de pensées négatives, des pensées pessimistes, des pensées de défaite, d'échec. Pour certaines personnes, c'est l'optimisme qui les anime. Je sais, mon père est comme ça. C'est un super optimiste. Hein. Mais on n'est pas tous comme ça. Hein, d'autres... Eh bien, voilà, on peut plutôt tendre vers le pessimisme. Ça dépend de la nature des uns et des autres. Et si on est comme ça, eh bien, on est une cible de choix pour Satan. Alors, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il vise ? Il vise à nous décourager et nous amener à penser que rien ne changera. Rien ne changera. Puisque la situation, c'est la même depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Pourquoi ça changerait ? Il n'y a aucune raison que ça change. Donc, aucune espérance à avoir. Et parfois, on est prisonnier comme ça d'un raisonnement qui nous fait tourner en rond. Et on descend, on descend, on descend. Et on s'accable et on se décourage. Comme si Dieu n'avait rien de bon pour nous. Et là encore, C'est un mensonge. C'est pas vrai. C'est une pensée complètement fausse. Mais s'il peut entretenir ça dans notre âme, eh bien, voilà, on va finir par y croire. Hein. Et si vous avez des pensées qui sont noires, hein, des pensées qui sont plutôt dépressives, des pensées peut-être de divorce, hein, des pensées de suicide, hein, des pensées qui visent à détruire et pas à bâtir, hein, ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces pensées-là. Quand on a de telles pensées, souvent Satan n'est pas loin. Satan ou l'un de ses démons n'est pas loin. Il est le destructeur. Et lui, il vise à détruire, à ruiner, à abîmer la vie, si c'est possible, notre vie. Mais ce sont des mensonges. Quelle est la vérité? Jésus est venu pour nous affranchir du mensonge et nous conduire dans la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous, mais il a plutôt des projets de paix et un avenir et de l'espérance, dit la parole de Dieu. La vérité, c'est que Jésus a promis que celui qui aura quitté, tout quitté pour suivre Jésus, alors la Bible dit, s'il a quitté ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, il recevra le centuple et la vie éternelle. Alors bien sûr, Jésus dit avec des persécutions, hein, il y a aussi des souffrances, il y a aussi des peines, mais il dit bien avant cela que son enfant, il ne va pas se retrouver comme un mendiant, abandonné de tous, seul, sans espérance, ce n'est pas possible. Alors bien sûr, Dieu ne promet pas la richesse, la gloire, l'élévation, le succès en tout point, mais il sera toujours avec nous, il nous accompagnera toujours et il nous protégera parce que nous sommes son enfant. Il va prendre soin de nous. La vérité, c'est que Dieu dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une espérance en Jésus-Christ. La vérité, c'est aussi que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. C'est fort. La vérité, c'est qu'il est capable de renverser des situations. Même quand on se dit « On est dans une impasse, il y a un mur, on ne pourra pas avancer ». La vérité, c'est que Dieu peut faire sauter le mur. Et on avance. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que Dieu nous dit, demandez et vous recevrez. Puissance de la prière, ça, c'est la vérité. Dieu donne. La vérité, c'est que Dieu est bon. Dieu est amour. On le lit ici. Dieu est amour. Et on voit combien c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a besoin de se nourrir des vérités de Dieu, des vérités de sa parole, de ses promesses. On a besoin d'alimenter nos pensées de toutes ces choses. C'est vraiment très important. Parce que si nous ne le faisons pas, alors il y a un vide. Et le vide, eh ben, le vide ne peut pas exister. Hein, souvent, ma femme me dit « À quoi tu penses ?» Je dis « À rien. » Mais on peut rarement ne penser à rien. Hein, on a toujours une pensée, hein, voilà, on est fait comme ça. Hein. Et si on ne remplit pas nos pensées des bonnes choses, des vérités et des promesses, alors eh bien, le diable va remplir avec d'autres choses, avec d'autres pensées et des mauvaises pensées, des pensées de mensonges. Ensuite, Satan peut nous entretenir dans la rancune, dans l'amertume, parfois dans des pensées de haine. Il peut par exemple nous rappeler le mal qu'on nous a fait. Tiens, tu te souviens, lui, ce qu'il t'a fait? Tu te souviens, elle, le mal qu'elle t'a fait? Il peut nous rappeler aussi les mauvaises paroles qu'on vous a dites. Hein, toutes ces paroles qui blessent, hein, qui font mal. Ou bien il peut utiliser quelqu'un pour faire allusion à quelque chose qui vous a fait mal dans le passé. Et voilà, ça vous ramène dans le passé, ça vous ramène à ces choses qui vous ont blessé, en sorte que ça puisse vous poursuivre et que ça vous tienne prisonnier dans de vieilles amertumes, dans de vieilles rancœurs ou colères. Quelle est la raison à tout cela? À chaque fois, c'est nous paralyser. Il veut paralyser le chrétien. Il veut le maintenir en échec. Nos pensées étant mauvaises, sombres, abattues, mensongères, ben ça nous paralyse. Et on n'arrive pas à vivre pleinement la vie que Jésus-Christ a pour nous. La vie qu'il nous a donnée, ce n'est pas une vie de mort, ce n'est pas une vie de pécheur perdu, une vie paralysée ou une vie dans la fausseté, mais c'est une vie de liberté, une vie de délivrance. Il est dit que le Seigneur est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ça, c'est la vérité. Il veut que nous, ses brebis, on ait la vie en abondance. On est des fils et des filles du roi des cieux, du Créateur. Et notre avenir, ce n'est pas l'échec. Notre avenir, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas ça. Notre avenir, mais il est glorieux. Notre avenir, ce n'est pas les ténèbres. Notre avenir, c'est la lumière. C'est de vivre avec Dieu pour l'éternité. Regardez ce que Paul dit en Philippiens 4, 8 à 9. Philippiens 4, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et si Dieu nous donne cette recommandation, c'est que malheureusement, il y a une menace, et une menace de glisser dans nos pensées. Nos pensées peuvent, voilà, dégringoler. Il y a une menace de se nourrir ou d'être nourri de pensées fausses, de pensées dégradantes, de pensées humiliantes, injustes, souillées, mauvaises. Mais il est dit, Dieu veut que nos pensées soient vraies. Vraies. Il veut que nous pensions la vérité, que nous nous nourrissions de la vérité, de tout ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que Dieu nous aide. C'est que Dieu nous secourt, c'est que Dieu est avec nous puisque nous sommes ses enfants, c'est juste ça, c'est vrai. C'est même sa volonté de construire. Il veut que notre vie soit un flambeau, c'est ce que dit hein, la parole, briller comme des flambeaux dans le monde. Et donc il veut que notre vie soit un flambeau par une foi qui est solide, une confiance en Dieu qui est solide, par un amour sincère les uns vis-à-vis des autres, par un esprit qui est plutôt positif, par une vie qui est ordonnée par la grâce de Dieu, donnant une parole claire, en sorte qu'on brille vraiment par notre vie, par la morale, par la justice, par la vérité. Dieu veut ainsi que nos pensées soient belles, pures, approuvées par lui, optimistes. Et si nous lui demandons, si c'est l'objet de nos pensées, et Paul dit, si nous mettons en pratique la parole, ce que nous voyons dans son exemple, alors il dit, le Dieu de paix sera avec vous. Il sera avec vous. Il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Non, jamais tout seul, comme dit le cantique. Alors, eh bien, que nous ne soyons pas paralysés dans nos pensées, hein, rejetons ces pensées du passé, et ces pensées mauvaises, et prions, Seigneur, donne-moi des pensées vraies dans cette journée, que mes pensées soient vraies, honorables, pures, justes, aimables, méritant l'approbation, vertueuses, dignes de louange. Pensons juste. Voilà. Satan essaie de nous paralyser avec les pensées. Ça, c'est une chose. Une deuxième manière par laquelle Satan nous paralyse, c'est en essayant de nous maintenir dans l'esclavage. Jésus a dit, en Jean 8, il a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous affranchit, vous allez être libre. C'est beau. Hein, la liberté, c'est une parole puissante. Si Jésus nous délivre de nos péchés, de nos passions, de nos mauvaises habitudes, des choses qui nous rongent, qui nous font du mal, alors eh bien, on sera libre, vraiment libre. C'est une promesse merveilleuse. Mais c'est une promesse qui devient réalité pour l'enfant de Dieu. Jésus n'est pas simplement venu nous délivrer de la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort, mais il est venu nous délivrer aussi de la puissance du péché, c'est-à-dire ce péché qui est en nous, hein, on connaît bien, et qui nous tire vers le mal. Et c'est une réalité qui est atteignable pour les chrétiens, parce qu'il est mort pour cela. Sa mort n'était pas simplement pour nous donner le pardon des péchés, mais pour nous donner aussi sa vie de sainteté. Il nous donne sa vie de sainteté puisqu'il vient habiter dans notre vie, dans notre cœur. Et parmi les pensées fausses que Satan voudrait que l'on entretienne, c'est celle qui nous dit « Tu continueras à pratiquer ton péché. Tu continueras toute ta vie. De toute façon, tu es fait pour ça, pour pécher. Donc, tu continueras à pécher. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas te libérer de tes péchés. » Ça, c'est une pensée fausse aussi. C'est un mensonge. La parole de Dieu dit le contraire. Jésus est mort afin que nous marchions en nouveauté de vie. C'est Dieu qui le dit. Il est mort afin que nous devenions une même plante avec lui et que, par la mort à nous-mêmes, nous nous relévions pour vivre en nouveauté de vie, la vie de résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, notre vieille nature, notre nature qui nous pousse au péché, a été crucifiée avec lui. C'est ce que la Bible dit. Nous avons été crucifiés avec lui. Ça, c'est une première chose. Il faut le comprendre. C'est une vérité. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ça veut dire que le corps du péché a été mis en croix. Un mort, ben, il est mort. Hein. Il ne bouge plus. Et si nous sommes morts avec lui, alors eh bien, la vérité, c'est que nous pouvons être immobiles au niveau de la mauvaise nature, au niveau du péché. Elle est sans puissance puisqu'elle a été crucifiée avec Christ. Et puis ensuite, si elle est morte, alors nous pouvons nous relever pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Non pas par nos propres forces, par notre propre capacité, mais simplement parce que Jésus-Christ vient habiter en nous et c'est lui qui veut vivre sa vie dans notre cœur. Vous connaissez ce passage où Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi ? Parce que je refuse de vivre la vie du péché. Je refuse d'obéir au mal. Je refuse de faire le mal. Je veux obéir à Dieu. Donc, je me consacre à Dieu. Donc, voilà. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, je lui laisse ma vie, je la consacre. Et à ce moment-là, eh bien, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi, Seigneur, libère-moi de moi-même. Et le Seigneur me libère de moi-même. Je vis pour lui et ça devient réalité dans la vie de tous les jours. Et vous savez, le diable, quand vous chutez une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois, c'est une réalité. Parfois, on en vient à être complètement découragé et on se dit, mais je suis comme ça, je ne peux pas me libérer, j'en suis incapable. Et lui nous susurre ça, il nous dit, mais oui, tu es prisonnier, c'est impossible que tu te libères de cette mauvaise nature. Jésus dit, elle a été crucifiée, tu peux vivre en nouveauté de vie. Et le diable dit, non, tu es prisonnier, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas être délivré de ta passion, de ton péché, de ton addiction. Tu vas continuer à le pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Dieu dit non. Regardez versets 1 et 2. 1 Pierre 4 et versets 1 et 2. Il dit ici, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Et ici, on voit qu'il est question d'en finir avec le péché, c'est ce qu'il dit. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas encore tomber dans le péché. Parfois, on tombe, hein? Tout homme tombe. Et même quelqu'un qui est mûr dans le Seigneur, mûr avec Jésus-Christ, il peut tomber encore par-ci, par-là. Donc, on ne sera jamais totalement délivré de nos péchés avant de rejoindre le Seigneur au ciel. Mais néanmoins, il parle quand même d'en finir avec le péché. Et il y a une différence entre chuter de temps en temps, par-ci, par-là, ça arrive, et être prisonnier d'un péché que l'on pratique chaque semaine. Et on n'arrive pas à s'en délivrer. C'est récurrent, c'est attaché à nous. Ça, c'est différent. Hein? Une chute de temps en temps, c'est normal. Mais un péché qui est attaché à nous, ça, c'est pas normal. Dieu veut nous libérer de ça. Il veut qu'on soit libre du péché, libre de la passion, libre de ce qui vient nous détruire, d'une mauvaise habitude. Pour ce genre de péché qui enlace et qui réduit à l'esclavage, Dieu dit, nous en aurons fini. Celui qui comprend que Jésus-Christ a souffert et qui accepte de souffrir avec lui, c'est-à-dire dans une vie qui se consacre, qui dit « Seigneur, viens-moi en aide, Seigneur, libère-moi », arrive un moment, il en est libéré, libéré. Afin de vivre, et c'est ça qui est précieux, parce qu'on pourrait se dire « Ah oui, mais ça c'est le ciel ». Mais non, il dit « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu au ciel ». Non, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pendant tout le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est merveilleux, c'est une promesse. C'est beau, ça veut dire, mais c'est possible d'être libéré de ce qui me tire vers le bas et j'ai l'impression que je suis enchaîné. Non, la vérité, c'est que je peux être libéré. La liberté, elle est là. Dieu nous promet un stade où nous sommes libres, libres de tout ce qui est, qui rend esclave, parce que nous marchons selon l'esprit, conduits par la volonté de Dieu et libérés de nos vieilles mauvaises habitudes. Alors dire qu'il n'y a pas d'issue à mon péché, c'est un mensonge. Parce que la victoire, elle est là. Peut-être qu'on ne la touche pas encore, on a le sentiment qu'on est... Voilà, on ne la touche pas encore. Mais la vérité, c'est ça. Et Dieu veut tous nous conduire là. Et pour y arriver, il faut persévérer. Il faut placer sa confiance en lui encore et dire « Seigneur, conduis-moi ici. » Tu le dis, conduis-moi ici. Libère-moi. Et il va le faire. C'est par la foi et la consécration, croire en Jésus-Christ, croire qu'on a été crucifié avec lui, croire que nous pouvons marcher en nouveauté de vie, c'est une réalité. Donc on a vu le deuxième dessein de Satan, c'est d'essayer de nous paralyser par des pensées qui sont fausses. Dernièrement, je relisais le Notre Père. Et je me disais, mais quand même, c'est précieux cette prière. Hein, vous savez, on sait que ça sert à rien de répéter de manière absurde, vide, et dégrainée, et de répéter 100 fois le Notre Père, ça sert à rien. Mais par contre, dans le Notre Père, il y a des vérités qui sont précieuses. Et Jésus a dit, ses disciples ont demandé, mais qu'est-ce qu'on doit prier ? Il nous a donné un modèle. Un modèle, il faut retenir toutes ces pensées qui sont précieuses. Il faut prier le cœur de la prière, pas simplement répéter le Notre Père. Et qu'est-ce qu'il dit dedans ? Il dit, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire que nous devrions prier, Seigneur, pour cette journée, garde-moi de la tentation, garde-moi du péché, garde-moi du malin, garde-moi des mauvaises pensées qui peuvent venir dans mon esprit. Seigneur, garde-moi de l'ennemi, protège-moi tout au long de cette journée. Si on sait qu'on travaille dans un lieu qui est difficile, parfois on est dans un lieu où le travail c'est difficile, parfois des mauvaises choses qui nous viennent de droite et de gauche, mais Seigneur, protège-moi dans ce lieu, garde-moi dans mes pensées, sois avec moi. Et Dieu exaucera. Dieu exaucera. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est la promesse. Donc, deuxième dessein, il essaye de paralyser l'enfant de Dieu. Mais troisième dessein, pour terminer, on peut relire 2 Corinthiens 2, 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Car nous n'ignorons pas ses desseins. Et à Corinthe, l'assemblée avait un problème, hein, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, elle ne pardonnait pas à cet homme qui était excommunié, cet homme qui n'avait plus le droit, il était exclu de la communion avec les frères de Corinthe. Et Satan se frottait les mains. Pourquoi ? Parce qu'il voyait le cœur dur de ces Corinthiens, ils voyaient leur légalisme, leur manque de compassion, de miséricorde, d'amour. C'est parfait, tout va bien. Parce que son troisième dessein, c'est d'essayer de ruiner l'Église. Il veut ruiner l'Église, il veut ruiner son témoignage. Et si jamais les Corinthiens ne pardonnaient pas à ce frère repentant, il réussit son œuvre. C'est parfait. Ce que Satan veut, c'est nous monter les uns contre les autres. S'il arrive à faire ça, c'est parfait, tout va bien. Essayer de créer la zizanie, de créer des querelles, de créer des jalousies, de réveiller le péché, de mettre des malentendus. C'est fou comme un malentendu peut arriver à des conséquences qui sont dramatiques. De mettre la suspicion, essayer de susciter la suspicion, la médisance, pire, les calomnies. C'est parfait pour lui. Et il a un allié qui est précieux. Cet allié, c'est notre nature humaine. Parce que certes, quand on accepte Jésus-Christ, il nous donne une nouvelle nature. Nous avons une nouvelle vie, c'est un nouveau commencement. Mais la vieille nature, elle reste là. Elle est crucifiée si on la met en croix. Si chaque jour, on dit « Seigneur, je ne veux pas vivre dans cette vie-là, je veux vivre cette nouvelle vie. » Alors là, oui, elle est crucifiée. Mais si on ne la crucifie pas, elle prend la place. Elle vit. Et elle, la jalousie, pas de problème. L'orgueil, pas de problème. La médisance, ok. Et tout le mal, la division, se monter les uns contre, pas de problème. Ça ne la dérange pas, au contraire. Et donc, Satan a un allié avec cette mauvaise nature qui est en nous. Et parfois, le diable n'a pas grand-chose à faire pour susciter des problèmes. Il pousse un petit peu, et parce qu'on ne marche pas, eh bien, ça s'effondre. Dieu veut qu'on s'aime, Dieu veut qu'on se pardonne. Dieu veut qu'on ne cesse pas de prier les uns pour les autres, qu'on se fasse grâce, miséricorde. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Pourquoi ? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il veut avoir un avantage sur nous. Je lisais la traduction d'Arby, une autre traduction qui est intéressante. Il dit « Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Qu'est-ce que ça veut dire « circonvenir » ? La définition, c'est « agir auprès de quelqu'un avec ruse et artifice pour le déterminer à faire ce qu'on souhaite de lui. » Voilà, « circonvenir une personne ». C'est agir avec ruse et le tromper pour l'amener à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Donc, lui laisser l'avantage, c'est lui permettre de nous rouler dans la farine, véritablement. C'est lui permettre de nous tromper pour qu'on fasse exactement ce qu'il veut qu'on fasse. C'est-à-dire détruire l'œuvre de Jésus-Christ, détruire l'épouse de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. En parlant mal d'elle, en critiquant l'un de ses membres, en gardant de la haine, en gardant de l'amertume, en séparant les frères, en montant l'un contre l'autre. Voilà. Mais si on est au Seigneur, pour terminer, nous ne sommes plus à Satan. On a changé de royaume. On appartenait au royaume des ténèbres, mais Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On appartient à Dieu, on appartient au royaume de la lumière, à Jésus-Christ, au bien, au vrai, au pur. Et il ne faut pas se retourner contre son camp. C'est dramatique, ça. Jésus a dit lui-même, mais comment un royaume peut subsister s'il combat contre lui-même ? Et donc, combattre contre soi-même, c'est catastrophique. Pensons plutôt que nous avons à combattre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les autorités dans les lieux célestes. Ça, c'est notre ennemi. Alors, pardonnons. Pardonnons encore. Pardonnons toujours. Et protégeons-nous. Protégeons nos pensées. Prions, Seigneur, protège mes pensées. Aide-moi à avoir des bonnes pensées, des pensées de foi, des pensées d'espérance et des pensées d'amour.